VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, 11h, temps universel. Donald Trump sera reçu ce soir à la Maison Blanche sur invitation de Barack Obama, qui n'a jamais caché cette divergence avec son successeur, mais veut faciliter une transition en douceur. Le futur 45e président des États-Unis et son prédécesseur démocrate, qui ont tous deux appelé à l'unité au terme d'une campagne d'une rare brutalité, vont s'entretenir à 16h GMT, 11h donc heure locale à Washington, dans le bureau Oval. Le succès de l'homme d'affaires new-yorkais âgé de 70 ans, qui deviendra le 20 janvier le 45e président des États-Unis et succédera donc à Barack Obama à la Maison-Blanche, va mettre fin à 8 années d'administration démocrate. Le nouveau président élu des États-Unis, Donald Trump, sera investi le 20 janvier prochain. Mais quels sont les défis auxquels il va faire face? Eric Manirakiza a joint l'analyste politique et professeur de l'Université de Virginie, James Caesar.
Il aura plusieurs choses à faire tout de suite. Il a promis d'abord de commencer son fameux mur avec le Mexique. Il a dit qu'il allait expulser tout de suite les immigrants, au moins les immigrants criminels. Ça va peut-être arriver tout de suite. Puis il a parlé d'un plan pour une défaite de l'État islamique avec pas beaucoup de détails, mais il a promis quand même. Et puis il va dépenser beaucoup d'argent pour les infrastructures dans les 10 ans qui viennent. Donc, c'est une espèce de projet pour le commencement de son mandat.
Oui, mais dans les 100 premiers jours, qu'est-ce qu'il devrait faire, selon vous?
Il a dit qu'il a annulé tout de suite beaucoup de règlements que Obama a soutenus. Et puis, comme je disais, il dit qu'il va demander aux généraux de les forces militaires de lui donner un plan pour une défaite de l'État islamique. Ce ne sont pas nécessairement des choses sérieuses. C'est la rhétorique de la campagne. Et maintenant qu'il est élu, il doit décider les choses vraiment les plus importantes, ce qu'il peut faire tout de suite. Et vous savez, avec beaucoup de choses, ce ne sont pas que des propos. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir le soutien du Congrès. Donc, c'est un grand processus. Ça dépend de la question. Il y a des choses qui sont sous le contrôle du président, mais une grande partie qui sont sous le contrôle du Congrès. Par exemple, le mur. Il faut avoir une loi et il faut avoir des fonds pour construire le mur.
Il y a la question de la Russie, par exemple. Trump qui inspire beaucoup plus confiance à Poutine qu'à l'OTAN.
Ce qu'il va faire avec la Russie, ce qui n'est pas très cohérent, ça il faut dire. Il a parlé un peu favorablement en ce qui concerne Poutine. Mais hier soir, par exemple, il a modifié en disant que, bon, il va être juste avec tous les autres pays, mais il va défendre les intérêts des États-Unis. Je peux dire que sous ce plan-là, sur l'OTAN et la politique extérieure, ce que nous avons vu jusqu'à maintenant est très flou. Et donc, ça va changer. Et il s'agit aussi de questions qui va être le secrétaire d'État. Cette personne-là va avoir beaucoup de marge de manœuvre. Et on verra après le choix de ce personnage-là. C'est un des choix les plus importants.
Trump, qui a promis beaucoup de choses pendant sa campagne, est-ce que vous pensez que maintenant qu'il sera dans la réalité du pouvoir, il pourra réaliser ce qu'il a promis?
Personne ne peut réaliser tout ce qu'il a promis. Par exemple, le président Obama. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est de choisir trois choses faisables tout de suite pour montrer qu'on peut agir, démontrer qu'on est sérieux. Il n'est pas nécessaire d'accomplir tout ça, ce n'est que le baratin de la campagne. Mais il va choisir les priorités tout de suite. Ces priorités peuvent être les choses qu'il peut faire lui-même, et puis d'autres choses qu'il doit faire avec le soutien du Congrès, qui est maintenant, il faut dire, majoritairement républicain dans les deux chambres.
Il y a l'Obamacare qu'il a promis d'annuler. Est-ce que vous pensez qu'il pourra introduire une autre forme d'assurance maladie aux Américains immédiatement?
Ça fait partie d'une loi. Donc, il faut avoir le soutien du Congrès. Sauf que, au sein de cette loi, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises par le président Obama. Et Trump pourrait annuler ces décisions comme ça, les décisions qui sont sous le contrôle du président. Peut-être qu'il va commencer tout de suite, quand il est élu, en disant que je vais annuler une telle ou telle réglementation, etc., etc., pour montrer qu'il n'accepte pas Obama. Mais pour faire tout un changement de l'Obamacare, il faut le faire avec la coopération du Congrès. C'est aussi vrai que les démocrates ont admis pendant la campagne, y compris Mme Clinton et son mari, qu'il y a de graves problèmes avec Obamacare. C'est déjà admis et donc ça va donner une possibilité d'avoir du soutien de quelques démocrates.
Le professeur James Césaire de l'Université de Virginie. Le quotidien d'État zimbabwéen s'est réjoui aujourd'hui de l'élection à la présidence des États-Unis de Donald Trump dans un éditorial où il remercie le peuple américain de ne pas avoir élu la belliciste Hillary Clinton. La réaction officielle du gouvernement d'Harare est restée plus mesurée. Le ministre de l'Information, Chris Mushowe, a rappelé dans le Herald, le quotidien national, que le Zimbabwe n'avait jamais été l'ennemi des États-Unis et jugé encourageant le ton modéré du premier discours de M. Trump après sa victoire. Le ministre espère que le nouveau gouvernement va restaurer les relations historiques du Zimbabwe avec le peuple américain. Et puis aussi, ici aux États-Unis même, le résultat de la présidentielle, difficile à accepter par des milliers de protestataires qui sont donc descendus dans la rue. Hier, dans un certain nombre de grandes villes américaines, ces manifestations ont été pacifiques jusqu'ici. Les protestataires scandant le slogan de Trump, pas de USA raciste. Des manifestants ont également bloqué la circulation à Chicago et marché à travers les rues de Philadelphie, Boston, Los Angeles, San Francisco et Seattle.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
En RDC, les massacres qui endeuillent depuis plus de deux ans la région de Beni sont le fait d'une nébuleuse derrière laquelle se cachent des mains politiques congolaises aux mobiles obscurs. Déclaration du maire de Beni, ville de l'Est de la République démocratique du Congo, dans un entretien avec l'AFP. Beni et ses environs dans le nord de la province du Nord Kivu sont le théâtre depuis octobre 2014 d'une succession de massacres de civils perpétrés essentiellement à l'arme blanche et ayant fait des centaines de morts, environ 700 selon l'ONU, jusqu'à 1300 selon un collectif d'ONG, de syndicats et de représentants des confessions religieuses. Le patron des services d'immigration gabonais a démissionné après une descente de plusieurs de ses agents dans les locaux d'un journal d'opposition à Libreville, où ils avaient interpellé 14 personnes relâchées par la suite, selon le ministre gabonais de l'Intérieur. Le 4 novembre, en effet, des agents de la DGDI avaient fait une descente dans les locaux du journal d'opposition Les Échos du Nord, particulièrement virulent dans ses prises de position contre le pouvoir, et interpellé 13 personnes, notamment des journalistes et des membres du personnel administratif et technique. La rédactrice en chef adjointe du tri-hebdomadaire, Raïssa Oyaseko, avait été interpellée le lendemain matin à son domicile. Le Kenya a débuté comme prévu mercredi le rapatriement de ses casques bleus déployés au Soudan du Sud au sein de la MINUS. Claire Morin-Gibou.
Un premier groupe d'une centaine de soldats en provenance de Vaud, dans le nord-ouest du pays, a atterri à la mi-journée à l'aéroport international de Nairobi. Les autres soldats doivent être rapatriés dans les prochains jours. Le général Benjamin Biwott a confirmé le retrait des casques bleus de la MINUS, conformément aux directives du président Uhuru Kenyatta. Le contingent kényan, l'un des plus importants de la MINUS, compte environ 1000 soldats sur les 13 500 casques bleus déployés dans le pays. Le rapatriement de ces casques bleus fait suite au limogeage du commandant kényan de la mission onusienne au Soudan du Sud. Il avait été démis de ses fonctions début novembre. Une enquête de l'ONU avait accablé les casques bleus pour leur inaction lors des violences de juillet à Djouba, ayant opposé les forces du président Salva Kiir à celle de l'ex-chef rebelle, alors vice-président du pays, Riek Machar.
L'Égypte, en quête de liquidité pour soutenir une économie chancelante, a obtenu un financement de 2 milliards de dollars d'un consortium de banques internationales dont le nom n'a pas été dévoilé. Cette annonce de la Banque centrale intervient à la veille d'une décision cruciale du Fonds monétaire international sur un prêt de 12 milliards de dollars demandé par le Caire. Je vous retrouve dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.